Shalom Ekoulam, Boker Tov, voilà, nous sommes le mercredi, et donc le mercredi, nous avons notre étude sur la Parashat Hashavua. Mes amis, cette semaine, Parashat Chukat. Parashat Chukat, une paracha évidemment, j'ai envie de te dire, centrale dans l'histoire d'Israël. Alors oui, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un rabbin qui fait un cours sur une paracha, il dit, cette paracha est la plus importante. C'est vrai, chaque paracha a son importance, mais c'est vrai que ce qu'on va étudier dans cette paracha Chukat est véritablement, fondamental. Et on commence par quoi? Eh bien, on commence par cette histoire de Zot Chukat HaTorah Para Aduma, l'histoire de la vache rousse. Alors, tout d'abord, il faut répondre à une question de base. L'histoire de la vache rousse, c'est-à-dire qu'on va prendre une vache rousse complètement rousse, machin, on va la brûler, et de ses cendres, eh bien, on va la mélanger avec de l'eau, et c'est ça qui va rendre, qui va permettre de purifier quelqu'un qui a été en contact avec la mort. Ça, c'est pour ce qui est des détails de la chose. Mais il faut savoir que, d'après nos commentateurs, eh bien, la vache rousse, bien que la paracha de la vache rousse soit notée ici, dans le livre de Bamidbar, eh bien, en vérité, elle a été donnée 38 ans auparavant, c'est-à-dire, elle a été donnée juste après la sortie d'Égypte. Les lois de la vache rousse. Alors, la question est pourquoi est-ce qu'elle est marquée à ce moment-là? Et une réponse, c'est-à-dire beaucoup plus tard, et une réponse qui est donnée relativement souvent, c'est que dans notre paracha, nous commençons l'ère des guerres. Or, dans la guerre, eh bien, il y a beaucoup plus de cas de gens qui vont mourir. Et tu vois la mort autour de toi, et donc tu pourrais te dire que la mort est la fin du voyage. Eh bien, non. La Para Aduma vient t'expliquer que la pureté doit l'emporter sur le vide laissé par la mort. Alors, ça, c'est de manière très générale, mais je voudrais m'intéresser à une autre chose. On appelle ça Zot Chukat HaTorah. Et on dit que c'est donc un chok. Et j'aimerais m'attaquer à cette folie-là qui s'appelle les Chukim, parce que, enfin, c'est pas une folie, les Chukim, c'est Dieu qui nous a donné, il n'y a pas de problème. Mais notre regard à nous par rapport aux Chukim marqués dans la Torah, et très souvent, complètement fou. Complètement fou, je me permets de le dire. Lorsqu'on parle de Chukim, eh bien, on a l'habitude de penser que ce qu'on entend généralement, c'est que non, mais c'est un roc. C'est-à-dire, c'est pas la peine de comprendre. Tu peux pas comprendre de toute façon. Laisse tomber, vas-y, fais. Et se rajoute à cela, en général, cet argument absurde. Non, mais de toute façon, il faut pas comprendre dans le judaïsme. Hein, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Naase Venishma. Naase Venishma, ça veut dire nous ferons, nous comprendrons. Donc laisse tomber, on ne comprendra pas. Alors d'abord fais, après tu comprendras peut-être ou pas. Alors il y a deux erreurs énormes qu'il va falloir réagir ici. La première, c'est que la dimension de Naase Venishma est complètement fausse. Du moins, comme on la comprend, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce que nulle part, il n'est marqué que Naase Venishma. Naase Venishma sont deux mots qui viennent conclure un verset. Un verset qui a un début, un milieu et une fin. Et c'est très important de savoir ce qu'est le verset. Et le verset nous dit dans le livre de Shemot, dans la paracha de Mishpatim, « Kol asher diber Hashem na'ase venishma ». Ce qui veut dire en profondeur, tout ce que Dieu a dit, donc j'ai entendu, donc j'ai compris un certain niveau, je vais faire, et en faisant, je comprendrai encore plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le judaïsme nous demande d'être stupide. À aucun moment, le judaïsme nous dit « Non, mais vas-y, c'est pas grave, comprends rien, vas-y, fais les choses. »« Non, mais saute par la fenêtre, hein, tu verras plus tard. » Non. Il faut que tu comprennes les choses. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois comprendre l'intégralité de chaque mitzvah avant de pouvoir la faire? Non. Je dois simplement comprendre qu'elle me vient d'Akadosh Baruch Hu. Nachon. De toute façon, tant que je ne l'ai pas compris, je ne vais pas la faire, la mitzvah. Donc, il y a des mitzvot qui sont beaucoup plus faciles de compréhension et d'autres qui sont plus difficiles. Les mishpatim, ce sont des lois qu'on peut tout à fait comprendre, d'ailleurs que les hommes ont pu inventer dans d'autres cultures qui n'ont pas eu la Torah. Alors que les chukim, eh bien, sont des lois qui nous viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à en tirer. Ça veut dire que même après ce que tu vas comprendre, eh bien, il y a une dimension qui nous échappe. Je donne un exemple tout simple. Un exemple bateau, j'ai l'habitude de le donner souvent. Un autre des chukim, c'est qu'on n'a pas le droit de mélanger dans nos habits le lin et la laine. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour l'homme moderne qui s'habille aujourd'hui en coton, en soie, en acrylique, je sais pas quoi, eh bien, le lin, la laine, c'est-à-dire, c'est des matériaux, ça ne lui parle pas plus que ça. Mais rappelons-nous de ce que la Torah nous dit quand elle nous dit de ne pas mélanger le lin et la laine. À qui elle s'adresse, cette Torah? Eh bien, cette Torah, elle s'adresse d'abord et avant tout, avant de s'adresser à moi 3000 ans plus tard, elle s'adresse, enfin 3500 ans plus tard, elle s'adresse d'abord et avant tout aux Juifs qui viennent sortir d'Égypte. Et donc, pour un Juif qui vient de sortir d'Égypte, cette analogie lin et laine veut dire quelque chose. Puisque en Égypte, qui s'habille de lin? Les Égyptiens. Le lin, ça pousse le long du Nil. Alors que qui s'habille en laine? Les bergers. Or, les bergers, nous dit le livre de Bereshit, n'existent pas en Égypte. Les Égyptiens ne sont pas bergers, puisque les moutons sont parmi leurs dieux principaux, Amon. Donc, ils ne sont pas bergers. Les Hébreux, par contre, sont des bergers. Donc, quand, après 210 ans en Égypte, on vient et on te dit, le lin, c'est les habits des Égyptiens. La laine, c'est les habits des Hébreux. Eh bien, tu sais quoi? Tu ne mélanges pas le lin et la laine. Eh bien, dans la tête des Juifs qui sortent d'Égypte, c'est une évidence. Il s'agit de ne pas s'assimiler. Mais comme nous, on vit 3500 ans plus tard, alors on a du mal avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est loin de la réalité qu'on ne peut pas la comprendre. Maintenant, le fait qu'on ait compris cela, qu'on ait donné une explication au Chatnez, l'interdit de mélanger le lin et la laine, est-ce que ça veut dire qu'on a tout compris? Eh bien non. À la différence d'un meurtre qu'on comprend dans tous les sens pourquoi c'est interdit, les choukim ont une dimension qui nous échappe. Mais la dimension qui nous échappe n'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est la dimension que l'on comprend. Et lorsque nous arrivons dans le chok, le fameux chok de notre paracha, para aduma, qui est là pour purifier, c'est-à-dire qui est là pour nous rattacher à la vie, pour que la vie dépasse la mort, eh bien alors les choses deviennent assez claires. Puisqu'il s'agit ici de prendre une para, une vache. Une vache, pourquoi une vache? Eh bien simplement parce que c'est le plus gros animal vivant à proximité de l'homme. Oui, il y a des girafes, mais les girafes ne sont pas vraiment en contact avec l'homme à l'époque des événements. Vous allez me dire, l'éléphant est plus gros? Oui, mais un, il n'est pas en contact avec l'homme, et deux, c'est un animal impur. Donc le plus gros animal cachère qui est en contact de l'homme, c'est la vache. Vous allez me dire, ok, alors prends un taureau, c'est un peu puissant. D'accord. Mais il ne faut pas un taureau, il faut une vache. Pourquoi? Parce que la vache est deux fois plus vivante que le taureau, puisqu'elle va elle-même donner la vie. Donc on a compris pourquoi une para, Adouma, le rouge, bon d'ailleurs c'est pas rouge, hein, c'est brique, mais rouge, c'est la couleur de la vie, la couleur du sang, la couleur de la tava. Faites l'examen, moi je peux t'assurer que quand j'étais au ZEI, les animateurs, pour nous c'était très clair, hein, quand j'étais enfant et après quand je suis devenu animateur, c'était clair, il fallait un budget confiture de fraises double du budget confiture d'abricot. C'est-à-dire que c'était clair que si tu mets deux assiettes, une assiette de confiture d'abricot, une assiette de confiture de fraise, celle qui part en premier chez les enfants, c'est la fraise, hein. Il n'y a pas de secret. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Donc, il faut que ce soit une para adouma. Temima. Temima, qu'est-ce que ça veut dire temima? Temima. Ça veut dire qu'elle est complètement rouge. Qu'il n'y a rien qui vient amoindrir ses forces de vie. Ensuite, on nous dira qu'il faut qu'elle soit enbamoum. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème interne qui vient amoindrir ses forces de vie. Asher lo ala alea ol, que aucun joug n'a été posé sur elle, c'est-à-dire qu'aucun amoindrissement de sa vitalité n'a été donné par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, cette para adouma, eh bien, on te dit tout simplement que c'est le lien avec la vie. Le plus du vivant qui soit. Et c'est donc qu'on comprend très bien pourquoi il faut d'Afka une para adouma, temimash. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment est-ce que le fait de mélanger tout cela à de l'eau de vie, on comprend pourquoi tout ça, ça amène la vie. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ça se fait que le Kohen qui asperge tout le monde avec ses eaux de para adouma rend pur tout le monde, mais lui-même se rend impur. Et c'est en cela qu'on comprend les paroles de Shlomo HaMelech qui nous dit « Amarti erkama vehi rechoka mimeni ». Ainsi nous dit Shlomo HaMelech dans les Proverbes, dans Michelet. J'ai compris plein de choses de la para adouma, mais il y a encore tellement que je n'ai pas compris. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on veut se rattacher à la vie. Cette dimension de comprendre les choses est le propre de notre paracha. Car dans notre paracha, nous perdons les grands dirigeants. Myriam meurt, Aaron va mourir et Moshe ne rentrera pas en Israël. Ça y est, cette fois c'est officiel. On le savait déjà avant depuis Eldad ou Medad, mais là ça va être officialisé. Et donc on arrive évidemment à l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Moshe qui a tapé sur le rocher. Et là je préfère tout de suite poser mes conditions avant de vous en parler. Il y a plusieurs éléments de base que j'aimerais bien qu'on prenne en compte. Deux remarques fondamentales avant de commencer à comprendre. La première, Moshe, c'est Moshe. On parle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ? Et il n'existe aucune personne qui mérite plus de rentrer en Israël que Moshe Rabbeinu. Que les choses soient bien claires. Même s'il a fauté. Donc, ce n'est pas un problème de mérite. Deuxième chose, de tout ce qu'on a appris de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un fauteur. Moshe Rabbeinu, je ne peux pas accepter l'idée, qui malheureusement, on la retrouve dans plein de commentateurs quand on les lit mal, je ne peux pas accepter l'idée que Dieu, il a dit à Moshe de faire A et lui, il a dit non, je m'en fous, je fais B. Ce n'est pas Moshe, ça. Moshe, il ne transgresse pas la volonté de Dieu. Non. Moshe, il fait exactement ce que Dieu lui demande. Il l'a prouvé, reprouvé et reprouvera. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, les amis, venez, rentrons directement dans le vif de la paracha. Mais avant de rentrer dans la paracha, hein, il faudrait se rappeler ce qui a marqué au chapitre 17 du livre de Shemot. Car au chapitre 17 du livre de Shemot, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? On vient de sortir d'Égypte, on a pu à boire, les Bnei Israël viennent voir Moshe. Moshe ne sait plus quoi faire, il dit on n'a pas à boire. Moshe vient voir Dieu et Dieu lui dit « Écoute, tu vois le rocher là-bas ? Prends ton bâton, tu tapes, il va sortir de l'eau, ça va être génial. » Moshe prend le bâton, il tape sur le rocher et il y a de l'eau qui sort et c'est génial. Voilà ce qui s'est passé dans le 17e chapitre du livre de Shemot, verset qui commence par le verset 6. En d'autres termes, cette histoire dont on n'a pas d'eau, un rocher, un bâton, on connaît. Moshe aussi connaît. Et donc, on arrive à notre paracha. À notre paracha, le peuple n'a plus à boire. On est après la mort de Myriam, le puits de Myriam qui prodiguait de l'eau à tout le peuple juif. C'est tari. Et donc, maintenant, eh bien, les Bnei Israël ne savent plus quoi faire. Ils viennent voir Moshe en disant « On a soif. On n'a plus rien à boire. » Et Moshe, il va dire « Ok, que faire ? » Ben, je vais demander à Dieu. Et là, Dieu se révèle à Moshe et lui dit la chose suivante, et j'aimerais qu'on comprenne bien les versets. Dieu dit la chose suivante. Je prends le verset pour que on ne puisse pas m'accuser de quoi que ce soit. Donc, nous sommes dans le livre de Bamidbar, Parasha de Roukat, voilà, j'y suis, au chapitre Kaf, verset... Voilà. Voilà, verset 7. Donc, chapitre 20, verset 7 du livre de Bamidbar. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Et Dieu a dit à Moshe, Kach et amate. Kach et amate. Prends le bâton. Je rappelle que ce bâton, depuis 40 ans, c'est le bâton qui sert à faire des miracles. Qu'à chaque fois que Dieu dit à Moshe de prendre le bâton, c'est pour faire un miracle. Donc là, Dieu il lui dit, prends un bâton. Dans la tête de Moshe, c'est clair. Kach et amate. Donc rassemble tout le monde avec Aaron. Et vous parlerez au rocher. L'énem, aux yeux de tout le peuple. Venatan, Memav. Et il donnera ses eaux, le rocher. Et tu leur feras sortir de l'eau. Il y a ici une contradiction évidente. D'abord, pourquoi il a dit Kach et amate, s'il veut qu'il parle ? Pas besoin du bâton dans la main pour parler. Et deux, c'est qui donne de l'eau ? C'est le rocher qui donne de lui-même ou c'est Moshe qui fait sortir de l'eau ? L'eau pas shoot, hein, cette histoire. Et je préfère vous rappeler encore une fois, Moshe, ce n'est pas le style. Dieu, il a dit tu fais A et lui, il fait B. Moshe a très bien compris, comme l'enseigne Manitou, Moshe a très bien compris que Dieu lui a donné le choix. Dieu lui dit, Tov, Moshe, au boulot. Le Am Israël a besoin d'eau, pas de problème. À toi de jouer et donc à toi de me montrer où tu en es. Voilà deux options. Ou tu prends le bâton et tu leur fais sortir de l'eau, en d'autres termes, tu tapes, ou tu parles au rocher et le rocher donnera de l'eau. Tu choisis. Moshe a choisi de prendre le bâton et de taper. Mais comment je sais que c'était une possibilité offerte par Dieu ? Ben parce que ça a marché. Si Dieu n'avait pas voulu que ça marche, ben ça ne marcherait pas. Mais ça a marché. Il y a vraiment de l'eau qui est sortie. Makara. C'est quoi l'histoire là-bas ? L'ifné hiver, l'otiten mershol. Non ! Ce n'est pas de on l'interdit de mettre un obstacle devant un aveugle. Pas du tout. C'est pas ou je te donne la possibilité de fauter ou je te donne la possibilité de ne pas fauter. Ni ça, c'est une faute. Non, ce que je te dis, il ne s'agit pas de faute. C'est-à-dire que le fait que Moshe prenne le bâton et tape n'est pas une faute. C'est une des options données par Dieu. Mais il faut savoir que chaque action entraîne une réaction. Chaque chose que je fais dans ce monde a une implication. Moshe décide de prendre le bâton, de taper sur le rocher, ça marche, ça donne de l'eau, et Dieu répond, Vayomer. Vayomer Hachem el Moshe. Vayomer, nous disent nos sages, c'est la Lashon Raka. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout énervé contre lui. C'est pas Vayharav, c'est pas Vaydaber, Vayomer. Et Dieu lui dit, ok, Lachen, Yann le Mamtembi, la Gisheni le Ebene Bene Israël, Lachen, l'otavi, et Takaal Azel, arrête. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Là, Yann, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu lui dit, ok, donc là, Yann, l'oemantembi, en quoi l'oemantembi? C'est quoi l'oemantembi? L'oemantembi, je te signale que je ne sais pas. Essaye, tu sais quoi, Alex? Il n'y a pas de problème. Prends un bâton après le travail, va voir un rocher et tape dessus, tu verras s'il y a de l'eau qui sort. Moshe, il est conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut faire sortir de l'eau si jamais on tape sur un rocher. Donc, Baruch, il a la émouna dans Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, Lian lo emantembi lehagdisheni leine bene Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne m'avez pas fait assez confiance pour me sanctifier aux yeux des bene Israël. Desquels? Ben de ceux-là. Lachen lotaviu et akal hazé. Elle arrête. Et c'est donc la raison pour laquelle vous n'amènerez pas ce peuple en Israël. Tout le truc se trouve dans ce peuple-là. Et maintenant, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il y a 38 ans, quand le peuple avait soif, Dieu a dit, prends le bâton, tape sur le rocher, et tout le monde était content et à Kol Tov. Alors qu'ici, il y a cette dualité où tu parles ou tu tapes. Eh bien, les amis, c'est un mifran pour Moshe. C'est un examen pour Moshe de savoir est-ce qu'il est conscient devant quel peuple juif il se tient. Comprenez-moi bien. Lorsqu'on sort d'Égypte, Am Israël, ce sont des bébés. Ils ne sont pas capables de se gérer tout seuls. Ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls. Il faut que Moshe fasse tout le boulot. Et ils ont soif, et ben c'est Moshe qui prend le bâton, qui tape et qui fait sortir de l'eau à tout le monde. Et qui donne à boire à tout le monde. C'est sûr que c'est lui qui a rempli les gourdes. Mais les amis, non mais Alex, avant de poser, deux secondes avant de poser les questions, écoute parce que je réponds aux questions avant même que tu les poses. Là, le peuple qui est face à Moshe n'est plus du tout le même peuple. C'est un peuple qui a grandi dans le désert, pour voir même qui est né dans le désert. C'est un peuple qui n'a pas connu l'esclavage. C'est un peuple qui est prêt à prendre ses responsabilités. C'est le peuple qui va tout simplement rentrer en Israël. Exactement. Là, c'est une bonne question. Là, c'est une bonne question. Pourquoi Myriam, elle ne rentre pas en Israël? A priori, elle n'a pas fauté. D'ailleurs, a priori, Aaron non plus, il n'a pas fauté. Donc, pose la question aussi sur Aaron. Rabotai, on est dans le même Inyan. Regardez de quoi on parle. La question, elle est simple. Pourquoi Moshe, on lui a dit, tu choisis? Eh bien, parce que faut que tu comprennes. Est-ce que c'est le même peuple ou pas? Le peuple qui vient de sortir d'Égypte, que tu as accompagné pendant si longtemps, ne pouvait pas se gérer sans toi. C'est à toi de tout faire. C'est toi qui prends le bâton, c'est toi qui tapes et c'est toi qui fais sortir de l'eau. Parce que Malasot, un peuple de bébés, il a besoin d'un adulte qui fasse tout le travail. Mais Dieu dit à Moshe, est-ce que maintenant tu comprends que ce n'est plus le même peuple, que c'est un peuple d'adultes qui va rentrer en Israël? Ce peuple d'adultes, il a besoin certes de guides, mais le guide, il doit les guider. Il ne doit pas faire tout le boulot. À un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est le papa qui habille ses enfants, c'est le papa qui fait la douche aux enfants, papa ou maman, même chané. Mais il y a un moment donné où il faut que les enfants aient appris de leur père comment on fait sa douche. Aaron était complice de Moshe. Peut-être qu'il n'avait pas son mot à dire. Hein. Attends, je peux t'assurer que si tu es à côté de Moshe et que Moshe me prend une décision, je vois mal comment Aaron il peut dire non, non, non. Mais en fait, ce n'est pas du tout une question de complice. Tu te rends compte, dans tes questions, tu es en train de faire passer Moshe pour un Racha Merusha. Moshe Rabbeinu. Non. Alors, viens, écoute deux secondes. L'histoire, elle est simple. À un moment donné, ton fils, tu ne peux pas lui faire la douche tout le temps. C'est un grand. Il a 9 ans, tu ne peux plus lui faire la douche. C'est bon, il doit apprendre à faire la douche tout seul. Donc, il y a un schlave intermédiaire. Il y a le moment où tu lui fais la douche parce que c'est un bébé. Il y a le moment où il fait la douche tout seul parce que c'est un grand. Et il y a le moment intermédiaire où tu es dans la salle de bain, mais tu ne lui fais plus la douche. Tu lui dis comment on fait la douche. Tu dis, voilà, maintenant tu mets ce bon truc-là, c'est le shampoing, et tu te frottes bien partout dans le cucu. Oui. Et à un moment donné, il devient suffisamment grand pour se doucher seul. Parce que c'est un adulte. Il est en train de devenir un adulte. On a besoin d'un guide pour nous dire comment faire, mais on n'a plus besoin que ce soit lui qui fasse. Lorsque Dieu dit à Moshe, tu peux aussi parler au rocher devant tout le monde, que tout le monde voit que ce n'est plus toi qui fais, mais c'est toi qui donnes des instructions et l'autre fait. En l'occurrence, le rocher, c'est-à-dire. Mais pour les peuples juifs, ça serait un grand ridouche que maintenant Moshe il peut parler, donner les directives de Sefer Dvarim et nous, on les met en pratique. La reine, Dieu il dit à Moshe, hein, vous n'avez pas eu foi en moi de quoi de me sanctifier aux yeux de ce peuple-là. Car ce peuple-là, il a grandi. Il n'a plus besoin que tu fasses. Il a besoin que tu lui dises comment faire, mais c'est lui qui va faire. Ainsi, Moshe Rabbeinu ne t'est pas puni. Il y a une conclusion, il y a une conséquence, tout simple. Il dit, ah bon, bah, tu as décidé de taper. Bah, le peuple avec qui tu avais besoin de taper ne rentre pas en Israël. Tu ne rentres pas non plus en Israël. Vous avez ça, là. Et il faut bien comprendre cela. Moshe, Aaron et Myriam symbolisent les miracles, symbolisent les moments où on ne peut pas se gérer tout seul. Myriam, c'est le puits de Myriam. Aaron, c'est les nuées protectrices. Moshe, la manne, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que Moshe, Aaron et Myriam, c'est, tant qu'ils sont là, on sait que les miracles, on n'a pas besoin de faire. Dieu y fait. La mort de Moshe, Aaron et Myriam. Alors, Moshe, il mourra plus tard, mais là, on nous dit qu'il va mourir, qu'il ne rentrera pas en Israël. La mort de Aaron et Myriam dans cette paracha hein, vient tout simplement nous dire qu'il est temps que le peuple juif sorte de l'époque des miracles, l'époque des sorteurs d'Égypte, pour rentrer dans une époque où c'est à eux de grandir et d'agir. Comprenez-moi bien. Akadosh Baruch Hu a promis la terre d'Israël. À qui ? Au Bnei Israël, Nahon, au Bnei Israël, aux enfants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ces mêmes enfants ont été comparés dans le Midrash, et pas que dans le Midrash, dans la Torah, dans Brit Ben Abetarim. Am Israël a été comparé aux étoiles du ciel. D'un autre côté, Moshe, dans la Gemara, dans le traité de Baba Batra, on nous dit qu'il est comparé au soleil, alors que Yehoshua est comparé à la lune. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez déjà vu, là, en pleine journée, les étoiles ? Non. Pourtant, elles sont là. Et pourquoi tu ne les vois pas ? Parce que le soleil, il est trop grand, il est trop puissant, il éclipse tout. Moshe, il ne peut pas rentrer en Israël. C'est ce qui se passera d'ailleurs dans Vaetranan, où il suppliera de rentrer. Il dit, ok, je fais tchouba, je veux rentrer. Juste tranquille, c'est Yehoshua le patron, mais moi, je veux juste rentrer. Dieu, il dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que quand toi, tu es là, tu as une telle lumière que ça éclipse tous les autres. Or, la terre d'Israël, je l'ai donnée au Ham Israël et pas à Moshe. Yoshua, c'est le manig, le chef, la lune. On voit qu'il y a un truc plus grand que les étoiles. Mais ça ne les masque pas. Au contraire, la lumière de la lune va tout simplement donner plus de scintillement aux étoiles. En d'autres termes, mon cher Abenou, est-ce que tu comprends quel est le peuple en face de toi? Moshe, il comprend très bien. Il comprend très bien, mais il comprend également que lui, il n'est pas au niveau de ce peuple-là. Il n'arrive pas à gérer ce peuple-là. Et c'est la raison pour laquelle, exactement, c'est la raison pour laquelle, fort de cet événement, eh bien, les Bnei Israël, ils disent, OK, alors on va y aller. On va y aller. Et ils disent, on en a marre des miracles. Nim'as lanu me'alechem aklokel. On veut plus de la manne. Terminé. C'est-à-dire qu'on veut plus de la manne. On veut maintenant manger du tarles. On veut manger des vrais aliments. Ah, tu veux manger des vrais aliments? Eh bien, il est. Nous dit la Torah. Je reprends le verset encore une fois. Slicha. Voilà. Bam. Vaïdaber Aam Elohim be Moshe Lama Elitunu be Moshe. Voilà. Vaïdaber ki en lechem ve en maim ve nafshenu katsa ba lechem aklokel. On n'en peut plus. Et donc à ce moment-là, Dieu, il dit quoi? En baya. Vaïshalach Hashem Baam et anechashim a serafim. Il a envoyé les serpents. C'est de quoi il a envoyé les serpents? Nous dit, comment il s'appelle? Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a envoyé les serpents. Pashut, comme Vaishalach Noach et Yona. C'est-à-dire qu'il a juste ouvert Yona, la porte, enfin la fenêtre de l'arche de Noé, et la colombe est partie. Ben là, c'est pareil. Vaishalach Hashem et Anechashim, il a juste ouvert la boîte. Il y a la boîte qui s'appelait les nuées protectrices. Dieu, il a dit, ah, vous voulez la nature? Ben voilà. Ben voilà, dans la nature, il y a des serpents. Il y a là. Nahon, tu as raison, Moshe. Tout à fait. En d'autres termes, vous voulez la nature? Inezeba. Et là, Am Israël, chute. Mais c'est chute. Alors, si au début, Moshe était adapté au peuple hébreu, tous dans les yeux, pourquoi on lui reproche d'avoir envoyé Yoshua se battre contre Amalek et d'avoir fait l'histoire des bras? Pourquoi on lui reproche? Qui lui reproche? On lui reproche pas du tout d'avoir envoyé Yoshua. C'est très bien. Agave, c'est pas lui qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé. Qui a dit, Bechar lanu anashim vetzel eilachem ba'amalek. C'est un gamour. Et justement, comme c'était encore une génération qui avait besoin de miracles, eh bien, il y a le coup des bras. Metsuyan, il y a le coup des bras, justement parce que à ce moment-là, on n'était pas capable de se battre contre Amalek sans. Et c'est justement pour cela que ici, face au Nechashim, à Séraphim, eh ben très bien. Alors c'est vrai que les Bnei Israël, ils l'ont dit sur un ton qui est un petit peu péjoratif, mais ils veulent la nature. Et à ce moment-là, Dieu, il leur dit, ok, ben voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben ils chutent. Pourquoi ils chutent? Parce que, deux secondes, c'est-à-dire que premier contact avec la nature, ah, c'est normal, l'athlète, ça fait 40 ans que tu ne sais plus ce que c'est la nature, c'est-à-dire l'athlète, donc le premier contact, il a été difficile, et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, Moshe entend de Dieu ce qu'il fallait entendre, à savoir, voilà, regarde, bien sûr qu'ils ont raison de demander de la nature. Ils ont raison de demander la nature, mais le problème, c'est que un trop-plein de nature risque de les écarter à l'inverse de l'autre côté. C'est-à-dire qu'un trop-plein de miracles fait que toi, tu ne fais plus rien. Un trop-plein de nature fait que tu oublies que tu es en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Dieu lui dit, Aselecha Saraf, Vesimoto Alnes. Mets un serpent et mets-le sur le bâton, et tous ceux qui verront le vrai yeux vers le ciel et verront le serpent seront guéris. Ce n'est pas magique, nous dit la Mishnah, Vechi Nachash Memit Nachash Mechaye. Il dit non. Et la bisman, chayoum istaklim klapemala, mouchaabdim et libam, la viem sheba shamaim, ayoum itrapim. C'est-à-dire que le fait de regarder le serpent, et vous remarquerez que c'est un truc complètement naturel. C'est-à-dire que Moshe vient de dévoiler par l'intermédiaire de Dieu les sérums. Il dit on combat le mal par le mal. C'est-à-dire que c'est un serpent qui vous a fait mal, ben, il faut le sérum du serpent. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans tous les symboles de médecine, ça sera le bâton entouré d'un serpent. Et ce n'est pas Asclépios, Esculape, qui en est l'origine, le dieu des médecins chez les Grecs, mais il a été piqué ça chez nous. C'est le Nahash Nechoshet de Moshe. C'est-à-dire que le Nahash Nechoshet vient dire, voilà les gars, face à la nature, il faut utiliser les armes de la nature sans jamais oublier de relever un petit peu les yeux et de regarder vers le ciel. La paracha de Choukat, c'est donc la paracha fondamentale qui nous permet de passer de l'âge des enfants à l'âge adulte. C'est ce qui nous permet de passer du moment où on était complètement dépendant de Moshe au moment où on peut enfin commencer à se prendre en main. Et c'est pour ça que dans les guerres qui vont suivre, eh bien, les guerres de Sichon et Og, bien que Moshe soit présent, ceux qui font la guerre, ce sont les Béné Israël. Parce que ça y est, on est prêt maintenant à prendre notre responsabilité et à devenir ceux qui vont conquérir la terre d'Israël pour dévoiler Dieu dans ce monde. Ne plus attendre des miracles qui viennent chambouler les lois du monde que Dieu a créé, mais au contraire, dévoiler Dieu dans le monde. Shabbat shalom à tous!